Est-ce la bonne décision ? Est-ce trop tard pour moi ? Prenez vos décisions d'investissement avec le soutien de Clarity AI. Gérez votre portefeuille tout en lui assurant une croissance durable grâce à l'association d'une IA puissante et d'une grande expérience de l'industrie. Notre technologie augmente l'efficacité des processus réglementaires, y compris ceux liés à l'article 29 de la loi Énergie-Climat. Réduisez les risques et atteignez vos objectifs de durabilité en vous basant sur des faits vérifiés et des méthodologies transparentes. Clarity AI, la technologie au service des décisions humaines. Rendez-vous sur clarity.ai et passez à l'action dès aujourd'hui.
Ça va?
Très bien.
Très bien?
Ça va.
Ah, yes. On a fini, ma belle.
Hop. Oui.
Manche de sa robe relevée sur l'épaule, Morissette a été vaccinée le 27 décembre à l'hôpital René Muret de Sevran. Elle est la première à recevoir le produit développé par Pfizer-BioNTech en France avec son consentement, puisque, raconte le Parisien, elle avait demandé à être vaccinée avant même qu'on lui propose. Avec cette protection contre le Covid-19, on peut espérer que Morissette ne rimera pas avec grippette. Mais une autre question se pose, à qui le tour ? Je suis Pierrick Fay, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des Échos. C'est le moment de sortir votre calendrier de la poste pour savoir quand vous allez aussi pouvoir vous faire vacciner contre le Covid-19. Spoiler, il va falloir être un peu patient.
Par ailleurs, vous le savez, j'ai annoncé en fin de semaine dernière que nous élargissions la cible des personnes à vacciner aux professionnels de santé de ville et d'hôpital âgés de 50 ans et plus, parce que ce sont aussi des personnes qui sont exposées au risque de la maladie et qui exposent elles-mêmes des personnes qui sont vulnérables.
Donc ça, ce sont les personnels soignants de plus de 50 ans.
Exactement. Et nous allons désormais amplifier, accélérer et simplifier notre stratégie vaccinale.
C'était le 5 janvier dernier. Face aux critiques sur la lenteur de la campagne de vaccination en France, le ministre de la Santé, Olivier Véran, annonce sur RTL une accélération exponentielle. Car pour l'instant, ce n'est pas Sébastien Loeb au volant pour piloter cette campagne. Au 10 janvier, près de 100 000 Français ont été vaccinés contre le Covid-19. Le rythme s'accélère, même si la France reste à la traîne des campagnes vaccinales organisées en Allemagne, en Angleterre, en Italie ou encore en Israël. Pourquoi ce démarrage en mode diesel ? S'agit-il d'un excès de précaution, d'un excès d'administration et de réglementation, d'un manque de produits ? Pour y voir plus clair dans l'agitation et la polémique qui s'en est suivie, je me suis tourné vers Solveig Godeluc. C'est la journaliste en charge des questions de santé aux Échos et notamment de la stratégie vaccinale du ministère de la Santé. Je lui ai d'abord demandé quels étaient les objectifs à moyen terme visés par le gouvernement.
Alors, je ne sais pas ce que vous appelez le moyen terme. En tout cas, sur le mois de janvier, l'objectif est désormais d'avoir 1 million de personnes vaccinées. Et en tout cas, le plus vite possible, le premier trimestre serait le mieux, il faudra avoir vacciné 15 millions de personnes qui sont vulnérables, soit parce qu'elles sont âgées, c'est le principal critère de péril du Covid, soit parce qu'elles souffrent d'une maladie chronique de type cancer, diabète, etc.
Par moyen terme, j'entendais en gros sur l'année. Hein.
Ah mais c'est à long terme ça.
Ah bon ?
Ah bah oui, non mais enfin, sinon on sera tous morts quoi. Enfin,
non mais. Oui.
Non mais enfin bon là, faut aller vite quoi. Enfin je veux dire le mur est proche quoi. Enfin ce que je veux dire c'est que on est déjà à peu près 65 000 morts. On va atteindre 100 000, là, partis comme on est. Donc, une fois qu'on sera tous immunisés par la maladie, on n'aura plus besoin du vaccin. Hein.
Oui, effectivement, c'est important de le rappeler. On avait l'air de plaisanter, mais il ne faut pas oublier, effectivement, que derrière, il y a souvent des drames et l'importance d'aller vite. Quand on va le rappeler aujourd'hui, tout le monde ne peut pas se faire vacciner, même ceux qui sont prêts à payer.
Alors, effectivement, puisque la stratégie du gouvernement est définie par la Haute Autorité de Santé, c'est de protéger d'abord les personnes qui sont plus vulnérables au risque de formes graves de la maladie et de protéger par la même occasion les hôpitaux, hein, qu'ils ne soient pas débordés par des gens en réanimation, des flux qu'on n'arrive plus à gérer. Ça a été un risque très important pendant les deux vagues précédentes. Ce qui veut dire qu'on va d'abord vacciner les personnes âgées, celles qui ont 75-80 ans. On a 10% de risque de décéder du Covid. Donc, c'est absolument là qu'il faut aller en premier. Ce qui explique, du coup, que les actifs de 40-50 ans ne puissent pas aller se faire vacciner, à l'exception des soignants de plus de 50 ans qui peuvent, depuis lundi, se faire vacciner.
Il y a eu une polémique sur le démarrage de la campagne de vaccination en France durant les fêtes de fin d'année 2020. On ne va pas rentrer dans cette polémique, Solveig, mais on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que ça démarre aussi et pourquoi est-ce que ça a démarré aussi lentement.
Je pense que tout simplement, ce n'était pas du tout prévu de démarrer la vaccination en décembre. Alors, le gouvernement avait prévu toute une logistique, toute une organisation avec recueil du consentement, etc. À partir de la mi-janvier, il avait tout mis en place, tout prévu, tout organisé. Et ça se passait à un moment quand même où la deuxième vague était en train de décroître. Donc, il n'y avait pas cette angoisse, cette panique qui est apparue récemment avec la reprise des contaminations en Angleterre, en Allemagne et peut-être même en France. Donc, on avait prévu des choses de manière assez posée, assez tranquille. Et puis, on s'est rendu compte que ça repartait. Et puis surtout que les pays voisins vacciner à toute vitesse certains pays voisins. L'Allemagne a vacciné beaucoup plus vite que nous dès la fin décembre. L'Angleterre, n'en parlons pas, mais eux, c'est pas tout à fait comparable parce qu'ils ont commencé avant et ils sont pas dans le système européen des pays qui ont commandé ensemble la même dose de vaccin par rapport au nombre d'habitants. Donc il a fallu accélérer. Il a fallu quelques jours pour se rendre compte de la nécessité d'accélérer. Et je pense que le tollé public a été salvateur pour accélérer, justement.
Il faut pas reculer, il faut avancer.
Oh bah j'ai rien dit. Avancez. Alors vous, reculez. Soyez chouette. Reculez.
Le gouvernement a visiblement été un peu pris de court dans sa stratégie vaccinale, là aussi par l'évolution, le réveil de la pandémie, vous le disiez. Mais est-ce que le gouvernement, d'une certaine façon, n'a pas aussi sous-estimé l'envie des Français de se faire vacciner?
Je ne pense pas qu'il ait sous-estimé l'envie des Français de se faire vacciner. Je pense qu'il a été obsédé par les anti-vax. Je pense que pour Emmanuel Macron, ça lui rappelle l'épisode des Gilets jaunes, de toute cette majorité silencieuse qu'on n'entend pas forcément, mais qui est mécontente, qui se méfie, qui a envie d'être entendue, qui a envie d'être concertée. Et je pense qu'on a avancé très lentement, justement pour pas brusquer cette frange de la population, pour donner toutes sortes de gages, de garanties à des gens qui étaient extrêmement méfiants. Mais ce faisant, on a peut-être un petit peu oublié ce qui fait le socle électoral de Macron, c'est-à-dire plutôt une population jeune, dynamique, qui a envie d'aller de l'avant, de reprendre le cours de la vie normale, de reprendre ses activités. Et pour l'instant, on n'a qu'une solution, c'est le vaccin, il n'y a rien d'autre.
On a commencé par les EHPAD, c'était nécessaire, vous le disiez, parce que c'est là que se trouve la population la plus vulnérable, la plus en danger face à ce virus. Mais est-ce que commencer par les EHPAD, ça ne complique pas aussi la tâche du gouvernement?
Je ne suis pas persuadée que ça complique la tâche du gouvernement. Au contraire, les EHPAD, c'est quand même assez pratique puisque c'est, il y a 7000 établissements. Bon, c'est les EHPAD et puis les unités de soins de longue durée aussi dans les hôpitaux. Il y a une unité de temps, de lieu et d'action qui est facile à avoir dans ces établissements, alors que le premier vaccin qui soit arrivé, le Pfizer-BioNTech, a une logistique quand même un petit peu compliquée du fait qu'il doit se conserver à moins 72 degrés. Donc ça nécessite des grands congélos, des centres logistiques importants. Pour alimenter ces EHPAD, on a créé des centres, 5 grandes plateformes logistiques au niveau national. Puis on a aussi commencé à équiper une centaine d'hôpitaux à travers le territoire. Et à partir de là partent les flux qui vont pouvoir aller dans les EHPAD. Alors certes, on a décidé de demander le consentement, de prendre le temps pour tout bien organiser. Mais l'avantage, l'énorme avantage de faire la vaccination dans les EHPAD, c'est qu'on va pouvoir avoir tous les gens sur place, on pourra aller vers eux. On n'aura pas besoin de faire venir des personnes âgées vers le vaccin, c'est au contraire le vaccin qui va se déplacer vers eux. Et puis, on a du personnel de santé qui vient régulièrement dans ces établissements ou qui travaille. Donc non, c'est plutôt une bonne chose. Ce qui s'est passé après, c'est qu'il y a eu un effet d'optique puisque on a forcément moins de monde à vacciner quand on se concentre sur les EHPAD que si on faisait toutes les personnes âgées de plus de 75 ans maintenant, y compris vivant à domicile. Mais ça s'explique aussi par le fait qu'il y a assez peu de doses pour commencer. Donc on ne pouvait pas vacciner à tout crin dans tous les sens.
Je ne suis pas du tout certain que ça doive prendre, c'est mon opinion, la forme de grands stades dans lesquels viendraient faire la queue des milliers de personnes en plein hiver. Je crois vraiment à la proximité et je crois au savoir-faire des professionnels de santé sur lesquels nous pouvons nous appuyer.
En visite à l'hôpital de l'Hôtel Dieu à Paris, Olivier Véran a répondu aux critiques sur la stratégie vaccinale de l'État. Pas de grands stades avec des milliers de Français faisant la queue dans le froid. Mais le choix de la proximité avec le personnel de santé. Alors concrètement, Solveig, ça va se passer comment ?
Ce qui va se passer, c'est à partir du 18 janvier, la vaccination va être ouverte aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent à leur domicile. Donc là, on rentre vraiment dans la deuxième phase. Bon, elle a été un peu amorcée depuis lundi, puisque les soignants de plus de 50 ans peuvent être vaccinés aussi. Mais ça, c'est vraiment le début d'une étape un peu plus grand public, puisque ça veut dire qu'on va devoir déployer des centres de vaccination à travers tout le territoire. À partir de la semaine prochaine, il y en aura 300 dans le pays. Donc à chaque fois, ça sera l'hôpital de référence, celui qui a les super congélateurs, plus deux autres centres, probablement un hôpital, et puis ensuite un centre de vaccination organisé par les médecins, les infirmiers, les pharmaciens de terrain. Et puis, avant la fin janvier, on aura à peu près 6 centres de vaccination par département. Donc les personnes âgées d'au moins 75 ans pourront s'inscrire via le site internet santé.fr ou bien en appelant un numéro qui n'a pas encore été révélé pour se faire vacciner dans ces centres. Ils n'auront pas besoin de consulter un médecin avant de venir se faire vacciner, ce qui est très important parce que ça va quand même accélérer beaucoup le mouvement.
Cette deuxième phase va concerner environ 5 millions de Français âgés de plus de 75 ans. Qu'en sera-t-il du reste de la population, Solveig ?
Mais ça, on ne sait pas très bien, en fait. Tout va dépendre du rythme d'arrivée des vaccins. Je vous rappelle que pour l'instant, on a seulement deux vaccins qui sont autorisés par l'Agence européenne du médicament. Et on attend toujours les suivants, et notamment ceux qui vont faire les gros volumes. Donc, pour vacciner les classes d'âge moins élevées, il va quand même falloir que le AstraZeneca ou le Janssen arrivent sur le marché. Et ça, on peut s'y attendre à partir de courant février, mais ça va plutôt être en avril qu'on pourra commencer à parler de vaccination en grand public.
On va y revenir sur cette disponibilité des vaccins tout à l'heure. On va parler du rôle des médecins traitants. Il sera important pour favoriser la généralisation de la vaccination, nécessaire pour permettre de relancer la vie économique et sociale. Justement, Solveig, les professions de santé sont-elles prêtes à jouer ce rôle ?
Tout à fait. Elles se sont proposées, elles sont tout à fait enthousiastes. Les médecins généralistes disent qu'ils sont prêts à se lancer, y compris dans leur cabinet médical et non pas dans des centres de vaccination dès que ce sera possible, c'est-à-dire dès qu'on aura les volumes et puis aussi des conditions de conservation un peu plus faciles que celles du vaccin Pfizer. Les pharmaciens aussi, n'oublions pas, les pharmaciens, ils aimeraient bien pouvoir vacciner contre le Covid, comme ils vaccinent aujourd'hui les personnes âgées contre la grippe. Ça n'est pas encore autorisé, ça n'est pas encore prévu, mais il faut s'attendre, si on veut réellement faire du volume et avancer vite sur la couverture vaccinale de la population, il faut s'attendre à ce que la vaccination soit permise en officine dans quelques temps. Et puis on a aussi les infirmiers, on a beaucoup de monde qui peut vacciner des Français.
Solveig, ce qui peut surprendre, c'est qu'avant Noël, on parlait de 200 millions de doses de vaccins précommandées de la part de la France, assez pour vacciner toute la population. Où sont passés ces vaccins ?
Les vaccins ne sont pas arrivés, il faut les attendre. Pour l'instant, on a 1,5 million de doses à peu près. On va en avoir 500 000 de plus par semaine. Du côté de Pfizer, Moderna va arriver un petit peu plus doucement. C'est une production moins industrielle. Les vaccins arrivent pour l'instant au compte-gouttes par rapport aux besoins. Ça va s'accélérer. D'ici la fin du premier semestre, on devrait en avoir 76 millions de doses. Alors, il faut diviser par deux tout de même, hein, puisqu'il faut deux doses par personne. Ce qui signifie, avec l'estimation d'un taux de perte d'à peu près 30%, que 17 à 27 millions de personnes pourraient, en théorie, être vaccinées durant le premier semestre.
Alors ce chiffre, 30% de perte potentielle du nombre de vaccins, c'est énorme. Comment est-ce qu'il s'explique ?
Le gouvernement a choisi de mettre cette hypothèse comptable dans ses calculs par prudence. C'est extrêmement prudent parce que, bien sûr, on ne va pas perdre 30% de doses, mais on se dit qu'il y aura peut-être des flacons égarés, des flacons non terminés, parce que c'est des flacons de 5 doses à chaque fois. Si on ne termine pas le flacon dans la journée, on n'a plus qu'à le jeter. Voilà, donc c'est une précaution, enfin, c'est complètement hypothétique, il n'y aura probablement pas 30% de pertes.
À la recherche du vaccin perdu, on a bien compris que fabriquer un vaccin, c'est pas si simple, surtout lorsqu'il s'agit de fournir une planète entière confrontée à un virus qui, il y a encore un an, était inconnu. Les États se sont pourtant préparés et la France reçoit ainsi chaque semaine 500 000 doses de vaccin Pfizer. Moderna, de son côté, avait indiqué être capable de produire entre 500 millions et 1 milliard de doses en 2021, ça paraît beaucoup dit comme ça, mais cela fait au mieux 18 millions de doses par semaine pour le monde entier. Alors pourquoi n'y a-t-il pas plus de vaccins disponibles? C'est la question que j'ai posée à Catherine Ducruet, journaliste aux Échos, spécialiste des groupes pharmaceutiques.
Alors déjà, il faut quand même rappeler que cette épidémie a démarré il y a un an et que déjà avoir deux vaccins disponibles, puisque celui de Moderna arrive en un an, c'est déjà du jamais vu. Bon, on peut toujours trouver, bien sûr, que ça va pas assez vite et tout le monde le trouve, mais deux vaccins, c'est déjà énorme. Bon, il y en a trois aux États-Unis puisque celui d'AstraZeneca est autorisé. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de doses disponibles? C'est que c'est pas simple à produire. Les deux premiers vaccins sont des vaccins ARN et les vaccins ARN, c'est relativement complexe à produire et surtout, ça n'a jamais été fait et il faut s'approvisionner en matières premières. Et ce sont ces matières premières qui, elles, sont très difficiles à produire en quantité industrielle. Donc, ça limite forcément la production de vaccins ARN. Quand on va avoir accès au vaccin AstraZeneca, ça va sans doute débloquer pas mal le goulot d'étranglement, puisque eux, ils tablent sur, je crois, une production de 3 milliards de doses.
Donc ça va aller forcément beaucoup plus vite. Il y a aussi une autre question qu'on peut être amené à se poser, puisqu'il y a ces difficultés d'approvisionnement et ces difficultés aussi à produire en masse. C'est un processus complexe, vous le disiez. Mais pourquoi est-ce qu'on ne produit pas plus de vaccins localement?
Alors, on produit pas plus de vaccins localement, justement parce que la technologie ARN, c'est quelque chose de nouveau et qu'il n'y a pas partout des installations industrielles capables de fabriquer ça. En fait, à l'occasion de ce vaccin, on apprend à faire ça dans des quantités industrielles. Donc, il n'est pas du tout question pour l'instant de faire du transfert de technologie comme c'est possible avec le vaccin d'AstraZeneca, parce que c'est pas suffisamment maîtrisé. Alors maintenant, si on parle de la France en particulier, en France, on n'a pas de site de production pour ça. Et puis, je pense que les paralysies administratives qu'on a eu l'occasion d'expérimenter, ça donne pas très envie aux labos de venir produire en France. On a aussi, il faut le rappeler, un taux d'imposition sur la production pharmaceutique qui est élevé. Et donc ça attire pas non plus les labos, ça leur donne pas envie de venir produire chez nous. En revanche, ce qui se fait déjà, c'est la mise en flacon, c'est-à-dire la partie finale du process pour les vaccins de Pfizer et bientôt pour le vaccin CureVac, qui arrivera plus tard. Il y a des accords qui ont été signés avec des sous-traitants pharmaceutiques français qui vont faire la dernière étape, mais qui n'est pas l'étape la plus technologique.
Autant dire que cette décision de l'Agence européenne des médicaments était très attendue par beaucoup de pays européens. Il ne reste plus maintenant qu'à la Commission européenne à donner son feu vert final, mais ça ne devrait prendre pas plus de 24 heures.
La semaine dernière, l'Agence européenne du médicament a accordé une autorisation pour le vaccin anti-Covid de Moderna, comme on peut l'entendre sur France 24. Un vaccin efficace à plus de 94%. Il rejoint ainsi celui de Pfizer. Les premières doses seront d'ailleurs livrées ce lundi, a indiqué le ministère. Catherine, où en sont les autres?
Après le vaccin de Moderna, on devrait donc avoir le vaccin d'AstraZeneca, mais pas avant, je crois, au plus tôt février en Europe. Et puis, bon, il faut le temps aussi, une fois que le vaccin est autorisé, c'est ça qui déclenche la montée en puissance de la production. Donc, ça ne veut pas dire que dès le jour de son autorisation, AstraZeneca va produire les 3 milliards qu'il a promis en quelques semaines ou quelques mois. Ensuite, il y a trois autres vaccins qui sont au programme. Probablement, le premier devrait être celui de Johnson & Johnson, qui est un vaccin qui utilise la même technologie que celui d'AstraZeneca, donc à base d'adénovirus, avec une capacité de production normalement d'1 milliard de doses. Donc ça devrait bien aussi contribuer à assouplir les limitations de production. En plus, c'est un vaccin qui nécessite qu'une seule injection, donc ça, c'est un gros avantage. Ensuite, on devrait avoir le vaccin de Novavax. Alors ça, c'est un vaccin avec une technologie qu'on n'a pas encore expérimentée, puisque c'est un vaccin ADN et non pas ARN. L'ADN, c'est une molécule qui est beaucoup plus stable que l'ARN, et donc, a priori, il va être plus facile à produire, plus facile à conserver que les vaccins ARN. Et Novavax, stable sur aussi 1 milliard de doses à compter du moment où ils vont obtenir leur autorisation. Tous ces vaccins sont actuellement en cours de phase 3, et donc, bon, il faut aussi que la phase 3, bien entendu, comme préalable, soit concluante, c'est-à-dire que ils prouvent leur efficacité. Ensuite, on va avoir un autre vaccin ARN, qui est le vaccin de CureVac, alors qui nécessite aussi deux doses d'administration, mais qui, lui, peut se conserver à température d'un frigo normal. Donc ça aussi, c'est un atout. Mais a priori, les autres vaccins ARN, la capacité de production ne sera pas énorme. Ils tablent sur 300 millions de doses dans un premier temps. Un accord vient d'être passé avec Bayer, un labo avec plus d'ampleur qu'une petite biotech pour sa commercialisation, donc pour que ça aille plus vite. Et enfin, fin 2021, on devrait avoir le vaccin de Sanofi. Bon, si Sanofi réussit à mettre au point son vaccin, ce qui n'est pas encore gagné.
Mais pourquoi est-ce que Sanofi est autant en retard, justement?
Alors Sanofi, en fait, ils ont fait un premier essai de phase 1 pour voir si leur vaccin était immunogène, c'est-à-dire provoquer une réaction immunitaire. Et ce qu'ils ont vu, c'est que, en fait, il est efficace chez les gens de moins de 50 ans. Or, malheureusement, c'est justement les plus de 50 ans qui en ont le plus besoin. Donc, ils ont décidé de refaire un nouveau dosage avec davantage d'antigènes inclus. Et ils vont redémarrer un essai clinique en février avec ce nouveau dosage, et toujours avec l'adjuvant de GSK. Et donc, on n'aura pas les résultats. Ça prend à nouveau 3 mois pour avoir les résultats. Et donc, ça veut dire que tout est décalé de 3 mois, et que donc, si tout se passe bien, et si le essai de phase 3 est concluant, on aura les doses au mieux en 2022.
Quand vous donnez des chiffres, 300 millions, 1 milliard, pour qu'on comprenne bien, ce sont des chiffres de production, en gros, des capacités de production sur un an pour le monde entier, c'est ça, hein?
C'est exactement ça, oui. Il ne s'agit pas d'avoir comme ça, du jour au lendemain, 300 millions de doses disponibles. Et donc, ça se fait avec une montée en puissance progressive. Par exemple, Moderna, ils ont indiqué qu'ils espéraient produire 100 à 125 millions de doses au premier trimestre 2021. Ensuite, sur l'ensemble de 2021, passer progressivement à 600 millions de doses, puis à 1 milliard. Tout ça est toujours progressif, bien sûr.
Catherine, je voudrais qu'on s'arrête un petit instant sur le retard de Sanofi qui risque d'arriver après la bataille. Certains ont associé le retard pris en France par la volonté d'attendre que Sanofi, groupe français, soit prêt. Qu'est-ce qu'il faut en penser?
Alors déjà, il faut savoir que les vaccins, ils sont commandés au niveau européen et pas au niveau français. Donc, il n'y a pas de situation particulière de la France par rapport à Sanofi sur ce plan-là. Alors, on peut bien imaginer que ce que je dis, bon, peut être nuancé. Mais en ce qui concerne les quantités commandées, il y a un contrat qui a été signé entre l'Europe et Sanofi, et de même que entre les États-Unis et Sanofi. Et ce sont des contrats qui sont conditionnels. C'est-à-dire que l'Europe et les États-Unis peuvent dire qu'ils ne veulent pas des vaccins de Sanofi. S'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour vacciner la population, ils peuvent très bien dire que finalement, ils ne confirment pas la commande. Ce sont des commandes qui doivent être confirmées. Donc, ça donne malgré tout une certaine transparence sur ce qui peut se passer.
Brian Pinker, premier bénéficiaire du vaccin 100% britannique. Coup d'envoi d'une nouvelle stratégie au Royaume-Uni contre le Covid-19. Désormais, c'est le vaccin du groupe pharmaceutique AstraZeneca et de l'université d'Oxford qui sera privilégié. Moins coûteux, plus facile à stocker et donc plus adapté à une campagne d'immunisation à grande échelle.
Début janvier, le Royaume-Uni a reçu les premières doses du vaccin d'AstraZeneca. Et cette semaine, le Britannique devrait demander à l'Agence européenne des médicaments l'approbation de son vaccin contre le Covid-19. L'agence qui indiquait vendredi sur Twitter qu'une décision pourrait être prise
avant la fin du mois de janvier. Son arrivée pourrait permettre d'accélérer encore le mouvement parce qu'il est moins contraignant que ceux de Pfizer ou de Moderna. Les contraintes logistiques, dont on a parlé dans un précédent épisode de la story, seront donc moins fortes. Il permettra aussi de soulager les pays soumis à des problématiques de pénurie, comme c'est le cas par exemple en Allemagne ou en Angleterre. Ces problèmes d'approvisionnement, ça montre aussi, comme dit la fable, que rien ne sert de courir puisqu'il n'y en aura pas pour tout le monde, du moins au premier semestre, Catherine.
Ah oui, ça c'est certain qu'au premier semestre, il n'y aura pas de vaccin pour tout le monde. Ce sera déjà bien si les catégories de personnes les plus exposées peuvent être vaccinées. Et c'est d'autant plus regrettable que ça va être l'hiver et qu'on a vu que ce virus, il se répand beaucoup plus facilement en hiver. Donc, effectivement, si le vaccin d'AstraZeneca, on l'a en février, ce sera le milieu de l'hiver. Et puis celui de Johnson & Johnson qui est un peu décalé dans le temps, je ne sais pas, peut-être en mars ou en avril, on aura passé la période la plus difficile. Donc, ça veut dire qu'on est à la merci quand même d'un reconfinement pendant l'hiver.
Un dernier mot, Catherine. L'un des freins de la part des Français à la vaccination, c'est de ne pas savoir ce qu'il y a dans le vaccin. Après, savoir ce qu'il y a dans une cigarette n'a jamais empêché certaines personnes de fumer. L'autre frein, c'est la crainte des effets secondaires. Que sait-on aujourd'hui, justement, des études cliniques lancées avant la phase de vaccination ?
Je voudrais dire juste un mot sur le fait de savoir ou non ce qu'il y a dans le vaccin. Je pense que si on explique aux gens que dans le vaccin, il y a de l'ARN viral synthétique, je ne suis pas sûre que ça les rassure vraiment, parce que pour la plupart des gens, ça ne veut pas dire grand-chose. Je pense que le problème, c'est la confiance envers ceux qui fabriquent et qui autorisent le vaccin. Si on a confiance, même si on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans, on va l'accepter. Je prendrai un exemple. Les gens qui montent dans les avions, il n'y en a pas beaucoup qui sont capables d'expliquer comment un avion fait pour voler. Donc, ils montent quand même parce qu'a priori, ils font confiance. Ben, je pense que pour les vaccins, c'est pareil. Donc, la confiance, c'est un truc essentiel. Et c'est ça qui fera que la population l'acceptera. Alors maintenant, s'agissant des effets secondaires, à court terme, on n'a pas détecté d'effets secondaires pour l'instant, autre que de la fièvre, des maux de tête et des douleurs au point d'injection. Alors, avec une intensité plus ou moins importante, il y a un cas qui a été rapporté, qui était dans un essai clinique, où la personne a dit qu'elle n'avait jamais eu autant de fièvre de sa vie. Donc, elle a fait une réaction très forte au vaccin. Voilà, mais le lendemain, ça allait déjà mieux. Donc, il peut y avoir une réaction immédiate, forte, et ça, il faudra que les médecins soient prêts à prévenir les personnes qu'on vaccine. Il faudra qu'ils soient prêts à leur expliquer qu'il peut y avoir des effets secondaires importants, mais que c'est pas grave et que c'est complètement transitoire. Voilà. Maintenant, s'agissant des effets secondaires à long terme, on peut absolument rien en dire parce que on n'a pas de recul, puisqu'on commence tout juste à vacciner. Donc ça, on ne peut pas du tout savoir. Mais j'en profite quand même pour dire une chose, c'est que certains s'inquiètent de ce que les vaccins ARN, avec les vaccins ARN, l'ARN puisse s'intégrer dans notre génome. Bon, ça c'est absolument impossible, parce que l'ARN ne va pas dans le noyau de la cellule, et c'est dans le noyau de la cellule que se trouve notre génome qui est porté par de l'ADN. Donc l'idée qu'on va devenir des OGM est complètement fausse et impossible.
Merci Catherine Ducruet et Solveig Godeluc, journaliste aux Échos. Pour finir, si vous vous demandez ce qu'il y a dans les vaccins, je vous invite à aller lire l'article de Florence Beauchard dans les Échos Week-end. Sachez qu'on y trouve parfois du sang de limule, des queues de salmonelle et des fantômes bactériens.
Alors, quelqu'un a vu un fantôme ?
Il est juste en face de moi, là. Il me regarde tranquillement.
Ça ressemble aux enzymes gloutons, hein ?
Fais gaffe, il pourrait t'entendre.
Surtout, ne bouge pas ! Il ne te fera aucun mal.
La story s'est terminée pour aujourd'hui. Le podcast d'actualité des Échos a été réalisé par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez nous suivre sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu. Pour l'actualité en temps réel, rendez-vous sur leséchos.fr.